Et oui, aime l'été. Bonjour Nathalie.
Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui?
Mais très, très bien.
Oui, aujourd'hui, on reçoit une personne que j'aime beaucoup.
Ouais.
En fait, écoute, c'est un gars que je trouve vraiment formidable, mais je tiens à te rappeler que, et c'est un souvenir encore impérissable pour mes enfants, Joël
Joël Legendre.
Joël Legendre, évidemment.
Ouais.
Alors, on a connu Joël et il avait fait Enfant Forme. Mes enfants m'en parlent encore aujourd'hui. Bonjour Joël.
Bonjour, il est à l'autre bout du fil.
Bonjour Chantal, bonjour Nathalie.
Bonjour,
oui, comment vas-tu?
Ah ben quand on parle d'enfant en forme, ça va.
Je sais que tout le monde t'en parle, mais que veux-tu? C'est un incontournable dans ta carrière.
C'est parfait. Mais non, mais la première fois que j'ai rencontré Jean-Louis Miette, j'ai parlé de Larry Boulding. Tu sais, c'est la même chose. On dirait que ça nous marque les émissions jeunesse, ça nous marque.
Bien, ça nous marque, mais ça a marqué des générations. Écoute, moi, je l'ai écouté avec mes enfants l'ont écouté et tout le monde en parle encore aujourd'hui. Alors,
c'est sûr que, c'est des beaux souvenirs, hein, ça évoque, on peut partager ça finalement. Alors, chose certaine, tu manques pas de projet, en tout cas, chose certaine, tu es un metteur en scène qui est très en vue, là, présentement. Alors, parce qu'il y a Waitress qui est présenté présentement.
À Québec, exact.
Oui, et puis il y en a bien d'autres aussi qui s'en viennent, il y a d'autres projets qui s'en viennent, mais évidemment, alors on va parler aussi de projets de recettes, je pense qu'il y a un livre qui sort très prochainement.
Tout à fait, le 21 août, donc c'est un livre de recettes pour les lunchs, donc ce livre-là, à vrai dire, c'est pas moi qui l'a interpellé, l'appel est venu à moi. Et c'est très drôle parce que pendant la pandémie, comme tous les parents, mes enfants étaient à la maison pour l'école. Et moi, je trouvais que c'était plate d'un ennui pour eux. Alors, je me suis mis, puis moi aussi, c'était assez tranquille de mon côté. Donc, je me suis mis à plancher sur des recettes pour que leur heure de dîner soit remplie de plaisir, soit délicieuse, soit originale, soit colorée. Et c'est ça, que tranquillement, pas vite, le soir... avant qu'on ait plus le droit de sortir, j'allais faire des emplettes rapidement. Mm-hmm. Et donc, le soir, pendant que mes enfants dormaient, je planchais sur des recettes. Et le matin, je les terminais. Puis à 11h30...
folie.
Quand ça finissait, l'école, puis là qu'il y avait une heure de dîner, là, la table était mise. Ça a comme été ma mission. On a tous eu des tocs pour se sortir de cette limitation-là. Et donc, pendant toute la pandémie, j'ai créé à peu près entre 60 et 70 recettes. Approuvées par mes enfants.
Ah.
Mais ça allait des affaires les plus folles, comme par exemple un sandwich mac and cheese. Tu sais, il adore le mac and cheese. Je me dis, je vais lui mettre ça en deux tranches de pain. Je vais mettre un peu plus de fromage, que ça soit un peu plus. Et donc, comme ça, j'ai construit mes recettes. Et il y a quelques mois, les éditions de l'Homme m'appellent, disent, on a pensé à toi, t'es un parent, t'es un enfant de 20 ans, puis t'en as deux de 10 ans.
C'est ça.
Donc, tu fais des lunchs depuis toujours. Aurais-tu quelques lunchs à nous proposer? Hey my God, mon ordi est plein, c'est rempli. Alors, on a tout mis ça ensemble et donc, ça donne lunch pour tous. C'est sans recette, finalement, parce que j'en ai ajouté. Sans recette, vraiment, là, qui ça passe de plus santé au plus cochonnerie.
Joël.
Tout à fait. On a vraiment besoin d'une petite Kit Kat maison qu'on fait nous-mêmes puis qu'on peut mettre dans le lunch. Et j'ai aussi beaucoup planché sur les végés viandes. Donc, c'est quelque chose que je m'étais jamais vraiment attardé. Donc, le végé poulet, le végé bœuf, végé bacon, végé croton. J'avais du temps, j'avais rien que ça à faire. Et je me suis rendu compte, parce qu'à la maison, je cuisine pas de viande, mais pour les lunchs, mes trois enfants sont pas végétariens, donc j'achète du jambon, j'achète du poulet, tu sais, pour mettre ça des préparations. Et je me suis rendu compte que la végé-viande coûte beaucoup, beaucoup moins cher que la viande. Et tu sais, le panier d'épicerie, on essaie de le réduire.
Mm-hmm.
Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Puis, en plus, les enfants voient pas vraiment la différence parce que c'est dans une préparation. Alors, j'avais envie de donner...
C'est un peu comme le tofu.
Exact.
Ouais.
Le tofu aussi, j'en ai plein de recettes avec du tofu, beaucoup de desserts aussi avec le tofu, parce que on réussit à le cacher. Moi, mes enfants sont brainwashés au tofu, donc il n'y a plus de trouble avec ça.
Mm-hmm.
Mais je sais que pour certains enfants, dans des familles, tu dis le mot tofu, puis
Mais sans le dire à personne, Joël, là, chez moi, je fais un pâté chinois végé, puis personne ne le sait quand c'est bien apprêté. Là.
Tout à fait.
Pâté chinois, sauce à spaghetti, tout ça, personne ne sait.
Tout à fait. Donc, tu sais, je fais même une soupe ramen parce que mes enfants tripent ça ramen. Il y a quelque chose qui passe dans l'air. Puis j'en profite pour mettre des petits cubes de tofu là-dedans. Comme ça, ça passe. Puis ça n'enlève pas du tout le goût de la ramen ni des belles nouilles qu'elles aiment. Bref, c'est ça. C'est un livre qui a été pensé pour économiser, pour que ça soit vite aussi. Il n'y a aucune recette qui est faite le matin même. On fait tout ça la veille ou on fait ça le dimanche. On a fait une grosse batch. On est débarrassé pour la semaine. On congèle des affaires. Donc, j'essaie de tenir par la main le parent qui aurait besoin d'être juste aiguillé, là, tu sais, sur comment s'organiser pour les lunchs.
Génial.
Ouais. Alors, voilà.
Lunch pour tous,
oui,
donc?
C'est Lunch pour tous, oui, de Joël Legendre.
On le voit quand, ce livre-là? On le
c'est
reçoit
le 21.
En librairie?
C'est oui, 21. Le 21, donc c'est la semaine prochaine, je pense, mardi ou mercredi prochain. Oui, c'est là que ça sort, pour vrai. Ouais.
Oui, exactement. Content. Alors, manger, santé et vivre vert, d'ailleurs, c'était ça, c'est un salon dont tu as été le porte-parole. Alors, donc, c'est cohérent avec, évidemment, le fait que tu écrives des livres de recettes, parce que c'est pas le premier que tu écris, donc.
Non, c'est mon troisième.
Exact, c'est ça.
Et c'est le premier, donc, destiné au lunch. Mais j'ai toujours autant de plaisir à... Puis je raconte plein d'histoires, puis, tu sais, c'est... J'aime écrire et j'aime cuisiner. Alors, pour moi, ce n'est pas juste un livre de recettes. Il y a plein d'histoires là-dedans. Chaque recette est commentée, tu sais, comment elle est arrivée, pourquoi j'ai pensé à telle recette. Tu sais, je fais une poutine, mais qui est faite à partir de pâtes. Donc, une pénémie poutine. Plein d'affaires que les enfants vont aimer retrouver dans leur boîte à lunch. Puis moi, ça me fait plaisir de le faire. Puis je l'expérimente avec mes enfants au quotidien. Puis là, l'école recommence. Alors, pour plusieurs parents, t'entends le mot-là.
C'est un grand défi. Exactement. Joël, t'impliques beaucoup, toi, tes enfants, dans tout ce que tu fais.
Oui, effectivement.
Ta famille est super importante.
Oui, oui, effectivement. Tu dis impliqué, des fois, c'est un peu forcé. mais quand même, c'est vrai que c'est important pour moi. Tu sais, dernièrement, je voulais que mes filles fassent du bénévolat parce que je trouve que nos enfants sont chanceux, sont gâtés, ils s'en rendent même pas compte.
Oui.
Et juste à côté de chez nous, on a le Phare Enfance et Famille qui est un centre pour les enfants qui sont en difficulté, puis les parents, des fois, ils prennent un répit. Donc, c'est un centre de répit, mais c'est aussi un centre pour enfants en fin de vie. Alors, il y a de tout dans ce centre-là, et c'est à 2 minutes de la maison. Mm-hmm. Donc, on passe devant souvent, et je me suis dit, « Hey, il faut vraiment s'impliquer. » Alors, maintenant, on fait du bénévolat en famille, puis au début, tu sais, les enfants, « Hey, my God, les filles, ça leur sentait pas. » Puis, c'est sûr, tu sais, côtoyer quelque chose...
Parce qu'elles ne connaissaient pas forcément, oui.
Exact. Mais quand tu rentres dans ce centre-là, au contraire, c'est rempli de joie de vivre. Mmh. Il y a des bénévoles, tout le monde est de bonne humeur. Il y a un chien qui est là, qui nous accueille. Tu sais, c'est... Alors, on fait donc du bénévolat pour eux. Et ça, c'est ma plus grande fierté d'enseigner ça à mes enfants, d'être philanthrope à leur tour. Je trouve que ça, c'est le rôle d'un parent.
Tout à fait. Ben alors, c'est ça, un parent qui a su inculquer de bonnes habitudes alimentaires, depuis longtemps, mais aussi, évidemment, aussi c'est ce sens de l'engagement. D'ailleurs, tu l'as toujours eu, tu as été quand même animateur à l'opération, enfin au Téléthon Opération Enfant Soleil pendant longtemps. Tu as fait plein de choses de cette nature-là. Alors, finalement, tu es vraiment quelqu'un de très impliqué qui, pour toutes les côtes, tu as été porte-parole aussi de Montréal en art en 2019. Oui,
exact.
Un festival aussi.
J'ai un frère aussi de Montréal, donc j'ai eu un petit frère. Tu sais, c'est pour les enfants que, par exemple, moi, mon petit frère avait jamais connu son père, mais il vivait avec sa mère. Donc, à l'âge de 8 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, je l'ai vu une fois par semaine. Cet organisme-là des grands frères et des grandes sœurs, c'est tellement important. Ça change la vie, mais une personne à la fois. J'avais envie de faire, à cette époque-là, du bénévolat, mais avec une seule personne. Un téléthon, c'est des milliers de personnes que tu rejoins. Mais être grand frère ou grande sœur, c'est tu t'attaches à une personne et tu vas changer la vie de cette personne-là. T'sais. Et je suis encore en contact avec lui. Aujourd'hui, il a 40 ans, il est père de 4 enfants. Je l'ai vu grandir, Félix-Antoine. Puis je suis tellement fier de ce qu'il est devenu. Ce n'est pas parce que j'ai été son grand frère, ce n'est pas uniquement pour ça, mais je pense que dans l'équation d'une vie, il arrive des gens qui peuvent juste réaligner le parcours, peut-être. Tu sais? Alors, moi, j'ai adoré être grand frère.
C'est ça, ça change les choses bien souvent.
Oui, oui, tout à fait.
Et toi, tu as, bon, on sait, c'est pas un secret, là, tu as adopté un enfant, tu as aussi fait appel à une mère porteuse, également pour tes filles, notamment.
Oui, ben oui. Tout à fait,
alors,
exactement.
Et puis, bon, là, justement, parlons-en un petit peu de l'homoparentalité, comment il y a quand même une évolution depuis 10 ans.
Une évolution immense. Ouais. Mon fils, ça fait 20 ans, donc, cette année que je l'ai adopté. Mm-hmm. Et il y a 20 ans, j'étais dans la première mouture des pères célibataires qui allaient adopter un enfant en Chine. Donc, ça s'était jamais fait encore.
Chose,
ouais. La Chine, sur une fenêtre de 2 ans, a proposé aux parents célibataires de pouvoir adopter. Donc, ça s'était jamais fait à l'international. C'est un test qu'ils ont fait et ça a duré seulement 2 ans, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont arrêté complètement après 2 ans. Sauf que moi, j'ai profité de cette fenêtre-là pour pouvoir aller chercher mon beau Lambert et qui a changé complètement ma vie. Et donc, quand j'ai rencontré mon conjoint par la suite, Lambert avait 7 ans à ce moment-là, je l'avais adopté en célibataire. Et là, avec Junior, on sentait qu'on avait envie encore d'avoir des enfants ou un enfant. Mm-hmm. Et on a donc procédé. J'ai dit, ben tiens, je vais rappeler à l'agence d'adoption. Et c'est là qu'on nous a dit que c'était terminé, qu'en tant que parent célibataire ou homosexuel, on peut pas adopter à l'international. Donc, c'était impossible. Donc, on s'est tourné vers la banque mixte qu'on a au Québec, qui est un projet fabuleux. Donc, où tu peux, en tant que père, mère célibataire, en tant que couple, adopter un enfant, mais tu sers d'abord de famille d'accueil pendant 2 ans et ensuite tu peux l'adopter. Donc, on a commencé le processus, mais on s'est vite rendu compte que heureusement que la mère ou le père biologique souvent vont rechercher l'enfant. S'ils sont dans une mauvaise passe, donc ils vont de mieux en mieux et ils ont le droit, ils ont 2 ans pour aller rechercher leur enfant qui est tout à fait légitime.
Oui, c'est tout à fait légal.
Sauf que là, on s'est interrogé, je peux pas donner un frère ou une sœur à mon fils et lui enlever après 2 ans parce que tout à coup, les parents vont mieux. Mm-hmm. L'enfant, il pourra pas comprendre ça. J'avais un enfant qui avait vécu le rejet. Je pouvais pas lui faire revivre un deuxième rejet avec un enfant. Donc, c'est là qu'on s'est tourné après vers la femme porteuse. Et c'est tout un enjeu parce que, encore là, c'était très, très peu fréquent. Ça se passait beaucoup au Mexique. On pouvait aller au Mexique, beaucoup à Toronto. Mais nous, comme on avait une famille, on ne pouvait pas s'en aller au Mexique pendant des mois pour attendre l'enfant. Donc, c'est là que le miracle est arrivé. C'est une amie qu'on avait en commun qui s'est proposée pour porter notre enfant à l'époque. Et c'est quand la première échographie, c'était nos enfants.
Oui, il y en a deux, finalement.
Mais ça ne peut pas être un plus beau cadeau. C'est quelle chance, pareil. Quelle chance. Mon père, il dit toujours à la blague, il dit, si j'avais cru, parce que j'ai 2 frères et 1 sœur qui ont chacun 1 et 2 enfants. Mm-hmm. Donc, moi, je me retrouvais avec 3 enfants quand je l'ai annoncé à mon père. Puis, il me dit, si j'avais cru que mon gars qui est homosexuel, c'est lui qui me donnerait le plus d'enfants dans la famille. Et qu'il me donne en plus un chinois puis des jumelles.
C'est très drôle. C'est très amusant. Oui, mais en fait, de toute façon, il y a quand même, on rentrera pas là-dedans, mais il y a quand même aussi de nouvelles règles ici au Québec là, depuis mars dernier. Alors, évidemment, pour les gens qui sont intéressés, allez vous informer. Mais en fait, parce que là, nous, on a plein d'autres choses à dire. Alors oui, la famille, c'est important. Alors effectivement, le bénévolat, l'engagement, ça a toujours fait partie de toi. Et puis, évidemment, tu es quelqu'un, comme on le disait au début, très sollicité. Pour faire de la mise en scène, ça a été vraiment... ça te fait combien là, de mise en scène de comédie musicale que tu fais?
Après ça, j'ai arrêté de compter. Ce qui est arrivé, c'est que c'est Denis Filiatro qui m'a donné ma première chance comme metteur en scène. J'en ai fait beaucoup encore là en bénévolat. Donc moi, j'allais, tu sais, quand mon fils était à l'école, j'allais me proposer pour monter une petite comédie musicale avec les élèves de l'école. Tu sais, en fin d'année, il y a toujours un petit récital de chant, de danse. Puis je me disais, tiens donc, pourquoi pas donner de mon temps? Puis en même temps, je vais apprendre mon métier, tu sais, de metteur en scène parce que je voulais arriver à ça un jour et ça s'en prend pas vraiment nulle part, le métier de metteur en scène. Donc, j'ai commencé à faire de la mise en scène comme ça dans les écoles. Denise Liatro en a entendu parler. Elle lançait un nouveau projet au Théâtre du Rideau-Vert qui s'appelait Revue et corrigée. Puis elle me dit, hey, tiens donc, je commence avec des nouveaux, je te prendrai toi aussi si ça tente. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, de fil en aiguille, ben j'ai fait ma réputation. Et dernièrement, c'est des coïncidences de la vie. Serge Postigo, Serge Denoncourt, qui avait vraiment beaucoup la mainmise sur la mise en scène au Québec. Oui. Les deux ont trouvé preneur en France et travaillent comme metteur en scène en France. Donc, j'ai l'impression que je me retrouvais le premier sur la liste pour faire des comédies musicales. Et je suis sauté, bien sûr, à pieds joints là-dessus. Et donc, depuis 4 ans maintenant, ça arrête pas. C'est une après l'autre. Et puis, j'ai tellement de bonheur à faire ça. C'est là que je me voyais, à vrai dire. Un peu le parcours de Denise Liatro, tu sais, qui a été actrice. Puis, à un moment donné, quand t'arrives la cinquantaine, tu te dis, je peux pas jouer tous les soirs au théâtre. Tu sais, fait que la mise en scène est parfaite parce que on travaille de jour. Donc, moi, le soir, je suis avec mes enfants. Et puis, je peux faire mon travail. Puis, c'est genre la semaine d'entrée en salle avant la première qui, là, est vraiment rock'n'roll. Mais ça, les enfants sont bien corrects avec ça. Puis, je suis capable de le supporter de 9h à minuit pendant 7 jours. Puis après ça, le show prend vie. Puis, j'y retourne de temps à autre. Mais c'est tout l'aspect créatif, moi, que j'aime de la mise en scène. C'est d'imaginer, ça va être quoi le décor, ça va être quoi l'époque. L'adaptation aussi, j'adapte les œuvres qui sont soit américaines ou là.
Oui, c'est ça, parce que tu fais ce travail d'adaptation aussi.
Mais je me suis rendu compte que je les entendais parler dans ma tête. Tu sais, j'ai l'entend parler. C'est bien plus facile pour moi de l'écrire et de le donner à un adaptateur. Puis là, La Cage aux Folles, ça va être en québécois pour la première fois.
C'est ça.
Ça a toujours été fait en québécois. Ouais. Ça a toujours été fait en français de France, parce que ça vient de là, mais j'ai dit non, on va transporter la Cage aux Folles dans le village gay de Montréal,
ça,
dans les années 70, puis ils vont parler toi puis moi, puis tu sais, ça va être pourquoi pas, parce qu'on avait nous aussi ce, tu sais, Gilda, c'est
la preuve absolue de Gilda.
Ben oui, qu'on avait, nous aussi, des transformistes, comme on appelait à l'époque, on appelait pas ça des dragues. Donc, Gilda, c'est vraiment le modèle de La Cage aux Folles version québécoise.
Tout à fait.
Mais Joël, parle-nous, avant ce projet-là, tu en as d'autres qui, en ce moment, ben, en fait, tu viens de terminer ou t'as les mains dedans encore? On parle du Matou.
Le Matou, présentement, je vous parle, je suis à Gatineau.
C'est ça.
Donc, la première est cette semaine. Et le Matou, pour vrai, ça, c'est un vrai, vrai coup de cœur parce que depuis 6 ans que ce script est atterri chez moi. Et en lisant le titre, Le Matou, la comédie musicale, je me suis dit, oh, mais quelle idée de génie de prendre le roman le plus vendu de tous les temps, qui a été adapté en 15 langues, qui est un fleuron québécois, et d'en faire une comédie musicale. Donc, c'est Jesse Brouillard, qui est un jeune homme qui a pas froid aux yeux, qui est allé à Broadway faire ses classes pour savoir comment ça marche, une comédie musicale, qui a appelé Yves Beauchemin, qui lui a dit, voici, je veux prendre ton œuvre, je vais en faire du théâtre musical. Yves Beauchemin qui a dit, je peux pas croire que mon œuvre va avoir été un livre, un film, une série, puis maintenant, va être au théâtre.
C'est fou, hein?
Alors, et c'est très touchant parce que la semaine dernière, on était à Sherbrooke pour justement lancer le Matou, et Beauchemin était dans la salle, puis il nous jasait après, les yeux remplis plein d'eau, extrêmement touché par ce qu'il a vu. Il est très, très fier de ça. Puis je lui disais, Beauchemin, mon fils de 20 ans n'avait aucune idée de c'était quoi le Matou, mais il est venu voir une répétition, puis il dit, oh my God, c'est donc ben bon. À son avis, à mon fils, c'est le meilleur show que j'ai fait jusqu'à maintenant. Oui, il a embarqué. Mais dans cette œuvre, c'est un vrai Walt Disney. Tu sais, un couple de bons qui veulent réussir dans la vie. T'as un méchant qui les empêche. T'as un enfant qui on suit l'aventure de l'enfant à travers ça. Et t'as un animal aussi, sa scène. Alors que c'est un vrai Walt Disney.
C'est vraiment magnifique. Puis,
c'est ça.
Et là, vous allez terminer le projet Waitress, bien sûr, qui a été très apprécié aussi,
exact,
avec Marie-Ève Janvier.
Exactement. Exact. Exactement. Donc, je suis revenu au Québec la semaine passée, juste pour être sûr que tout allait bien. Quand on entre dans une nouvelle salle, il y a des ajustements à faire, mais Le show était tellement rodé. Ben oui, c'est un succès. C'est 55 000 billets vendus.
Hey, c'est fou.
C'est extraordinaire. Avec justement Marie-Ève Janvier qui s'est complètement abandonnée au jeu. Je lui ai dit, fais-moi confiance, je t'amène. Puis tu sais, dès le départ, là, aussitôt qu'on a reçu le script, là, j'étais avec elle, on l'a travaillé. Puis au niveau du chant, je savais qu'elle, elle pouvait m'en montrer. J'avais rien à lui montrer.
Mais c'était une première pour elle, parce que c'était pas évident de faire une comédie musicale, de chanter et jouer en même temps, bouger.
Et danser, exactement. Tout ça à faire. Puis on a beau dire, c'est une comédie musicale qui parle des tartes, qui, tu sais, elle a fait des tartes, Jenna, le rôle principal, donc tenu par Marie-Ève, et elle avait à en faire aussi pendant qu'elle chante. Il faut qu'elle fasse une préparation de tarte, m'a dit.
C'est ça, il faut faire des actions plus précises.
Puis il faut qu'à la fin de la toune, la pâte, elle soit prête. Ça a l'air niaiseux.
Oui, oui, c'était pas comme Don Juan, là. C'était autre chose. C'était beaucoup plus précis. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu sais, j'ai entendu Jean-François Brault dire qu'il était encore retombé en amour avec sa Marie-Ève au moment où il est allé la voir.
Ah, il a pleuré sa vie. Après le spectacle, tellement fière d'elle.
Tout à fait.
Ouais, ils sont beaux ensemble.
Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment un beau projet aussi. Mais dirais-tu, c'est parce que toi, tu es à la fois acteur, on t'a vu dans les bye-bye, donc la comédie, tu sais faire aussi à ce niveau-là. Et puis, c'est sûr que là, tu chantes également. D'ailleurs, tu as fait beaucoup de doublage également. Puis là, dans les Disney, tu parlais des Disney, mais tu sais, on se souviendra de ta voix, tu faisais le rôle d'Aladin. Mmh.
Tout à fait. Ouais. Du doublage que j'ai beaucoup fait avec la fille de Nathalie.
Oui, exactement. Catherine Brunet. Qu'on reçoit demain.
On va parler.
Ah, ben c'est belle fun. Oui, oui. Donc, mais c'est un univers, le doublage, qui est extraordinaire parce que on dit souvent dans notre métier qu'on peut être brûlé, tu sais, rapidement si on nous voit trop à la télé.
Ouais.
Mais le doublage nous permet de gagner notre vie et en pratiquant notre métier, parce que pour vrai, tu sais, j'ai aussi doublé Leonardo DiCaprio pendant des années. C'est un acteur fabuleux, donc ça me permettait de pas rouiller comme acteur, de continuer. Je me disais, oh wow, mais je le regardais travailler, j'essayais d'emprunter son souffle et sa diction, mais dans une autre langue. Sauf que ça nous fait travailler comme comédien. Et donc le doublage a pris beaucoup beaucoup de place à une certaine époque de ma vie, puis maintenant, j'ai laissé...
Ça t'a un peu préparé directement à tout ce que tu vis maintenant, au fond. Et puis, ça ne nous étonne pas parce que on a senti chez toi tout ce talent, cette polyvalence.
Bien, une polyvalence qui vient beaucoup d'une insécurité, je te dirais, parce que quand... Tu sais, mes parents ont quitté le Québec pour aller vivre aux États-Unis, j'avais 18 ans. Donc, je me retrouvais... tout seul, j'ai choisi de pas les suivre. J'étais à l'école de théâtre, puis j'avais envie de faire carrière au Québec. Là, je me voyais pas au Connecticut faire carrière en théâtre. Ça,
fait, évidemment.
Donc, c'est un peu l'insécurité qui m'a dit, moi, là, je vais tout faire ce qu'on me demande, mais je veux jamais faire autre chose que mon métier. Alors, je me suis mis à écrire, je me suis mis à enseigner, je me suis mis à prendre des cours de diction. Parce que j'étais tout seul au monde. Mm-hmm. Mais... je voulais rien faire d'autre que ma job. Et ça m'a amené une certaine polyvalence, mais ça part d'une peur de ne pas faire mon métier.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je récolte tout ça, mais il y a été longtemps dans ma carrière où on me disait, « Hey, vas-tu finir par se brancher? »
Ah oui, parce que t'as été animateur, t'as animé des quiz, là. Paquet voleur.
Paquet voleur, entre autres.
T'as tout fait, Joël.
J'ai tout fait, on me le reprochait. Et alors que maintenant, on dirait que presque 60 ans, je bénéficie de tout ça. Je me dis, oh my God, j'ai tout fait ça, donc je peux aussi m'en servir comme metteur en scène pour l'enseigner, pour... Et j'ai toujours autant la passion de mon métier, alors c'est vraiment une chance.
Mais fut une époque, tu as raison, où les gens levaient le nez un peu sur tout ce qui était faire de la publicité, faire du doublage. Ah. Les gens se concentraient soit sur la télé, soit sur le théâtre, alors qu'aujourd'hui, il faut être polyvalent dans ce milieu-là. Si tu veux arriver à survivre.
Mais exact, c'est la seule façon de survivre aujourd'hui. Puis mais je crois que c'est à l'époque, c'est André Lachapelle qui avait vraiment coupé cette espèce de notion que quand tu fais du théâtre ou quand tu fais du cinéma, elle avait accepté de faire une pub, rappelez-vous, pour une bière. Et tu voyais André Lachapelle qui buvait sa bière et ça avait comme... tout le monde chialait, disait « ça n'a pas de bon sens ». Puis après ça, tout le monde s'est dit « ben, si André Lachapelle le fait, je peux le faire moi aussi ». Et on dirait que ça a complètement changé le vent de côté. Et à partir de ce moment-là, c'est comme devenu plus encensé de faire plein de choses.
Exactement.
Ouais, c'était valorisé, effectivement, de faire ça.
Je dois beaucoup à André Chapelle et à son
Rapidement, là, il y a un autre projet qui s'en vient. Bien, on prend un peu d'avance, mais c'est pour Noël. Ce spectacle de Noël avec de belles voix aussi à venir. Bon, ça, c'est pour à partir. C'est la 7e édition de Noël en chanson.
Exact. Donc, je fais la chaîne de la mise en scène donc depuis le début. Et la particularité, ce qui est le fun, c'est que l'année passée, on m'a demandé de faire partie du spectacle. Oh. Et cette année, on m'a redemandé encore. Alors, je vous jure, c'est pas moi qui prête le citron, mais j'aime ça parce que je me retrouve sur scène. C'est condensé. C'est un seul mois. Tu sais, c'est le fin novembre jusqu'à fin décembre. Pendant un mois, on parcourt le Québec. J'adore la tournée. Et je suis avec du beau monde. Tu sais, Jobocan, Lunou, Luce Dufault, Marie-Michel Desrosiers. Toutes des super belles voix, des belles personnes, et on chante Noël. C'est une fête que j'adore, Noël, et j'en signe la mise en scène aussi. Alors, pour moi, c'est un grand bonheur. Je finis l'année avec ça de façon très, très festive.
Ah, génial.
Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, Joël, de passer cette demi-heure avec toi. Alors, je te souhaite, évidemment, d'avoir encore de la broue dans le toupette pour longtemps.
C'est gentil. Hey, je vais en parler à ma mère. Ma mère, elle trouve que je travaille trop. Mais je vais dire que Chantal m'a souhaité d'avoir de la broue dans le toupette.
C'est ça, exactement.
Merci, Joël.
Merci,
c'est gentil.
Merci beaucoup.
Et puis, merci, Nathalie. Ben oui. Et je veux te dire que je t'aime beaucoup aussi.
Oh, t'es fin. Je t'aime fort.
Bonne fin d'été.
Bye, bye. Bye.